Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Camille Bataillon. Camille est sexologue et l'idée c'était de s'entretenir avec elle pour parler de parentalité et de sexualité. Comment se passe la reprise des rapports? Comment pouvons-nous vivre notre intimité, notre sexualité? Qu'est-ce que le clitoris? Comment parler de sexualité dans le couple? Nous allons essayer de balayer tous ces sujets, et si vous avez des questions qui vous viennent, je vous invite à les noter, car nous organiserons un nouvel épisode questions-réponses avec Camille. Ma première question, c'était avant tout de savoir à qui on parle, et donc de savoir c'est quoi être sexologue. Je vous souhaite une bonne écoute.
Alors, sexologue, c'est une professionnelle qui s'intéresse à la vie intime, relationnelle, affective, sexuelle des personnes. Donc, on les accompagne vers ce cheminement-là pour les personnes qui ont des troubles sexuels, pour des personnes qui ont une curiosité, qui veulent en apprendre plus, comment aller mieux, que faire, curiosité, comment apprendre, comment découvrir mon corps, comment être mieux dans la communication avec ma partenaire. Et donc, c'est les accompagner sur ce cheminement-là.
Ça fait quand même un grand champ d'investigation et de travail. et c'est extrêmement intéressant. Je vais essayer de me concentrer un peu sur une partie de la population, puisque c'est beaucoup de parents et de papa et de maman qui nous écoutent. Si, déjà, est-ce que tu as des gens qui viennent te voir suite à leur parentalité, aux modifications que ça a pu apporter dans leur vie de couple, dans leur dynamique de vie sexuelle? Comment ça se passe un petit peu généralement ces moments-là pour les parents?
Oui, alors ça arrive effectivement. Ça peut se passer au moment de la grossesse. Souvent, ce que je vois, c'est plutôt après une naissance.
Mmh, bah oui.
Quelques mois, plusieurs mois après une naissance. Ça ne va pas être tout de suite dès les premiers mois. Mais voilà, après 6 mois, 1 an, voire plus, où il y a des questionnements, une sexualité qui est plus difficile qu'avant, qui est inexistante. On se pose beaucoup, les personnes se posent beaucoup de questions. Tiens, est-ce que c'est normal? J'ai moins d'envie, on devrait faire plus souvent. Donc, toutes ces injonctions-là qu'on entend du dehors, de la famille, des médias, on les retrouve au cabinet où vraiment les personnes ont besoin d'être rassurées et de savoir si ce qui se passe est normal et comment faire pour retrouver cette intimité qui, des fois, a été un peu chamboulée avec l'arrivée de l'enfant.
Ça oui, ça on est bien d'accord. et justement, comment ça peut se passer, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions encore une fois sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a un moment où par rapport à ce qu'on peut lire ou entendre, est-ce qu'il y a un fameux moment où la sexualité doit pouvoir reprendre? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce que sinon ça va pas? Est-ce que sinon il y a un déficit d'amour? Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire sur ces sujets-là?
On dit qu'il n'y a pas de normes, ça dépend vraiment des personnes. Chaque personne déjà réagit différemment, le corps aussi réagit différemment. Ça dépend d'un tas d'éléments qu'on pourra citer après. Moi, je ne parle pas vraiment de fréquence, je n'aime pas ce terme de fréquence, ça serait plutôt de qualité et de satisfaction. Donc si les personnes ont repris une fois dans l'année des rapports intimes et que les deux membres du couple sont satisfaits avec ça et qu'ils se sentent remplis, très bien. Et puis si d'autres, justement, souffrent un petit peu de ce manque de connexion ou d'intimité, alors là, on va s'y pencher. Mais c'est pas en termes de temps. Moi, ça va être vraiment par rapport à la personne, comment elle se sent, comment dans le couple ça se traduit et comment je peux les accompagner à ce moment-là.
D'accord. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de délai à tenir. Et l'important, c'est la qualité du moment. Enfin,
la qualité
du ou des moments.
Mm-hmm. Et de s'écouter soi aussi, de se dire, ok, là, si je sens que j'ai justement un besoin, une envie, mais il y a peut-être des blocages ou alors j'arrive pas à reprendre cette intimité avec ma partenaire. Je sens que j'ai besoin d'aide. Souvent, les gens, de façon, vont le sentir, vont se dire « Ok, je me pose des questions, je me sens perdue, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. » Eh bien, c'est le bon moment alors pour faire appel.
Pour faire appel donc à un ou une sexologue.
Exactement.
Et... et se faire accompagner. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens se disent que déjà, de toute façon, l'intimité, ça se vit forcément à deux.
Oui. Alors souvent, déjà, je repars de la personne. Donc, je me concentre déjà sur la personne en tant qu'individu. C'est-à-dire, voilà, quel est votre rapport, votre relation déjà à votre corps ? Alors là, si on s'adresse à la personne qui a accouché, voilà, quelle est votre relation à votre corps post-accouchement ? Hein, il y a déjà tout ce travail-là. Et puis, voilà, quel est votre rapport à votre sexualité, à votre intimité ? Est-ce que, par exemple, il y a une pratique masturbatoire ? Alors, pas dans le sens où c'est obligé de se masturber, il faut se masturber. Je l'entendais encore ce matin, une personne qui me disait, mais tout le monde me disait, mais c'est pas normal, tu te masturbes pas. Et donc, je me suis masturbée, mais j'en avais pas envie. Eh bien, il faut s'écouter aussi. Moi, je pose cette question juste pour savoir voilà, où la personne se situe. Et vraiment, ce rapport à soi, prendre du temps pour soi, de qualité, se connecter à soi. Et puis ensuite, une fois que ça, c'est déjà fait et mis en place, alors on peut s'intéresser du coup à la relation et comment ça se passe, comment créer des moments de qualité, hein, plus que quantité, mais vraiment qualité. Qu'est-ce que le couple a envie de mettre en place aussi ? Et ça, on pourra en reparler aussi plus tard sur est-ce qu'il y a vraiment que la pénétration qui est possible dans la sexualité. Donc, ça va vraiment être ça. D'abord, on va se concentrer sur la personne en tant qu'individu. Et puis ensuite, les personnes qui sont en couple, alors comment faire couple et nouveau couple aussi, un couple qui a évolué post-accouchement.
Au final, le premier sujet, ça va être la personne en elle-même et son rapport à son propre corps, c'est ça ?
Oui.
Et à son propre désir, à sa propre énergie. Je t'avais lu et entendu parler d'énergie sexuelle et pour le coup de tensions qui peuvent s'installer. Est-ce que tu peux juste développer un petit peu cette partie-là ?
Oui, c'est surtout quand je parle de la personne elle-même, c'est des fois, c'est vraiment de décortiquer en fait qu'est-ce qu'elle veut au fond, quel est son désir à cette personne-là. Parce que souvent, on peut se dire, oui, j'ai envie de sexe, mais en fait, c'est parce que j'ai pas fait l'amour depuis 5 mois et en fait, mon compagnon, ma compagne, je sens cette pression. Alors qu'au fond, la personne elle-même, au fond, n'avait pas forcément envie. Ou elle a envie, j'écoute ce désir-là, mais elle a plein de blocages. Donc, c'est l'accompagner par rapport à ça. Et donc, c'est d'aller au fond, en fait, vraiment une introspection pour aller toucher cette énergie sexuelle, pour aller toucher ce qui s'y cache, mais aussi, du coup, pour découvrir certains blocages, certaines tensions sexuelles, beaucoup de peurs aussi qui sont associées. Donc, de pouvoir décortiquer tout ça, toutes ces tensions, tous ces blocages, pour vraiment, dès qu'on a enlevé toutes ces couches-là, hop, on peut vraiment atteindre, OK, le cœur du désir, toi, qu'est-ce que tu souhaites ? Toi seul, maintenant, qu'est-ce que tu souhaites ?
Et c'est top, ça. Et après, dans le cadre d'un couple, ensuite tu fais quoi ? C'est chacun se concentre d'abord sur son individualité, sur son désir individuel, et ensuite on cherche les points de connexion.
Exactement, ouais. Alors souvent quand c'est en couple, donc je les vois une première fois en couple, mais ensuite j'aime beaucoup les voir en individuel puisqu'on va pouvoir se pencher vraiment sur la personne et décortiquer tout ce que j'ai expliqué précédemment. Et puis ensuite quand on revient en couple, OK, maintenant qu'on a décortiqué chacun des deux côtés, comment on peut regrouper tout ça dans le couple ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Quel compromis on peut mettre en place ? Parce qu'on se rend compte, c'est jamais vraiment... Il y a toujours des disparités, que ce soit dans le désir, dans les envies. Donc, comment on peut se retrouver ? Comment le couple peut se retrouver sur des points communs, des valeurs communes, des priorités aussi ? Parce qu'il y a souvent aussi la question de la priorité. Pour un des membres du couple, le sexe, c'est très, c'est une priorité très grande et peut-être l'autre, beaucoup moins. Donc, comment ils peuvent se retrouver là-dessus, sur ce plan-là ?
Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des rapports au sexe qui sont très différents de par, un, les injonctions extérieures, mais aussi de, finalement, la qualité du moment. Parce que c'est là où j'aimerais que tu puisses nous parler de ce grand inconnu mystérieux qu'on a découvert finalement, hyper récemment, en fait. Enfin, découvert, non. Je pense que c'est pas découvert, mais qu'on a en tout cas redécouvert, cartographié, en 3D, et qui, mine de rien, est un vrai sujet. Il y a énormément... Là, je vais parler en tant qu'homme, en tant que mec, avec tous les stéréotypes dans lesquels j'ai grandi. Moi, je suis un mec, moi, je sais donner du plaisir à une femme. La grande majorité des mecs qui disent ça ne connaissent pas ce fameux inconnu qui s'appelle le clitoris. Est-ce que tu peux, alors pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, elle me montre un petit clitoris en 3D qui est extrêmement mignon.
Tout violet.
C'est ça. Alors, quel est-il, ce clitoris, et à quoi il sert ?
Oui. Alors, le clitoris, on le retrouve pour les personnes qui ont une vulve. Et donc, c'est un petit, voilà, un petit bouton qu'on sent au-dessus. Donc, il y a le vagin, et puis il y a l'urètre, et puis tout au-dessus, il y a une petite boule. Et donc, ça, c'est le clitoris. C'est le gland du clitoris, en fait, qu'on peut toucher. Donc, c'est ce qu'on appelle l'extérieur du clitoris. Donc, ça, on peut le voir chez certaines personnes parce que le gland est à découvert. Mais chez d'autres personnes, on ne le voit pas parce qu'il est caché par le capuchon. Donc, pour certaines personnes, quand elles se masturbent ou dans les rapports sexuels, ont besoin de retirer un petit peu ce capuchon pour avoir plus de sensations. Parce que le clitoris a beaucoup de terminaisons nerveuses, plus de 8000 terminaisons nerveuses. Donc, c'est l'organe du plaisir. Il ne sert qu'à ça. Et donc, il y a ce gland du clitoris qu'on peut toucher, qu'on peut voir chez certaines personnes, mais il y a tout l'intérieur aussi, et c'est ça la grande découverte, c'est que le clitoris est vraiment avec des branches, deux branches sur le côté et des bulbes aussi, et c'est ce qui recouvre aussi, c'est ce qui est sous les petites lèvres en fait. Et c'est pour ça que c'est très sensible aussi quand on masse aussi les petites lèvres, les grandes lèvres, le capuchon. Il y a une sensorialité, il y a des sensations. Et donc, voilà, quand on le touche, quand on le masturbe, que ce soit indirectement, donc via des positions sexuelles, des fois, voilà, si le clitoris est stimulé par les frottements aussi du corps de l'autre personne, ça vient agrémenter de plaisir. Et puis, on peut le stimuler aussi directement, en le touchant directement avec sa main, avec une langue, avec un sextoys, avec des objets, etc.
Ça en fait des choses à faire avec un clitoris finalement.
On peut. L'imagination est infinie, hein?
Et donc c'est un organe qui est uniquement dédié au plaisir. Alors, je m'autorise à penser que la nature étant bien faite, ça doit entraîner une lubrification qui doit favoriser ensuite un rapport au sens reproductif du terme.
Oui, dès qu'il y a l'excitabilité, il peut y avoir effectivement la lubrification vaginale, qui peut être aussi, hein, des fois, tout dépend. Enfin, c'est pas forcément, on peut lubrifier, mais ne pas avoir envie de rapport sexuel, comme on peut avoir très envie de rapport sexuel et ne pas lubrifier. Ça, c'est important aussi de le mentionner.
Eh ben écoute, je le savais pas, tu vois, donc c'est chouette. non, mais c'est super intéressant parce que finalement, quand je t'entends, déjà j'entends plusieurs choses depuis le début. C'est que un, il y a vraiment une sexualité par personne et en plus ça peut évoluer, quoi.
Ça évolue, oui, effectivement, ça évolue. Et là, par rapport au clitoris, je pensais, parce qu'hier, j'écrivais un article justement par rapport à la ménopause. Et donc, je faisais mes recherches et je lisais aussi que le clitoris, en fait, donc à la ménopause, il y a plein de changements. C'est un changement physiologique naturel. Donc voilà, les organes sexuels changent, hein. En fait, dans notre corps vieillit, il évolue, mais aussi nos organes génitaux. Et ça, on y pense peu. Mais le clitoris ne change pas. Donc,
Ah ouais?
c'est-à-dire qu'il, oui, de ce que j'ai lu, il ne change pas, il reste le même, donc il peut apporter tout autant de plaisir aussi. Donc ça, c'est important aussi, je pense, à transmettre pour les personnes ménopausées. Le clitoris, il est là et c'est votre allié, il reste votre allié en fait tout du long de votre vie, que ce soit pour l'accouchement, il reste votre allié, que ce soit pour des pratiques masturbatoires, que ce soit pour une relation sexuelle avec des partenaires, que ce soit dans votre ménopause, enfin voilà, c'est vraiment un allié. Et que ce soit aussi pour les crampes menstruelles. Il peut aussi diminuer les douleurs.
Alors, d'accord. Pour le coup, je ne connais pas ce sujet, mais je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditrices, pour le coup. Est-ce que tu as l'impression que depuis la redécouverte de ce clitoris et le fait qu'on en parle, les pratiques sexuelles ou en tout cas les désirs ont évolué, se sont remis en question? Quel est ton point de vue, toi, en tant que professionnel du sujet?
Oui, en tout cas pour les personnes avec une vulve que je rencontre, il y a cet intérêt, et surtout chez les personnes. En fait, non, il n'y a pas d'âge, parce que je dirais que c'est des personnes entre 25 et 35 ans qui s'intéressent de plus en plus en fait à découvrir leur plaisir sexuel via la masturbation principalement. Et donc, oui, comment le toucher ce clitoris? Et elle se pose tout un tas de questions. Elle cherche à savoir un peu mieux, quelles sont les étapes, comment faire, etc. Et aussi, il y a pas mal de séries, alors pas mal, mais il y a quelques séries sexo-éducatives pour les femmes qui se lancent. Donc, aux États-Unis, c'est Oh My God, Yes, et en France, il y a Climax. Et donc, j'ai pas mal de clientes qui se renseignent en fait via ces plateformes, qui regardent les vidéos et qui pratiquent. Et je vois que pour elles, c'est vraiment un soulagement de se dire, bon, d'une part, je ne suis pas seule. D'autre part, je peux voir des vidéos de d'autres personnes qui se masturbent et donc je peux découvrir qu'en fait, il y a plein de techniques à faire et donc je pratique et je découvre différentes sensations selon comment je me touche, selon comment je me sens, etc. Donc ça déculpabilise, ça détabouise, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, ça permet vraiment de libérer la parole sur le sujet. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus et que les gens maintenant savent que le clitoris existe. Et donc, même les hommes se demandent aussi, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce clitoris ? Je viens de découvrir et qu'est-ce que je peux en faire, quoi.
Et justement, alors, c'est très marrant que tu parles de la série Oh My God, Yes. Moi, j'ai découvert il y a quelques années parce qu'elle avait été recommandée par Emma Watson en personne. Donc, a priori, c'est quand même un gage de qualité. Là, tu touches à un point qui est extrêmement important et sensible pour les hommes aussi qui peuvent nous écouter. C'est quand je suis un mec et que je découvre ça, parce que nous, on a grandi en nous disant « Non, mais il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont vaginales. » Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces concepts-là ? Et ensuite, comment ça se passe pour le coup ? Parce que je m'imagine que dans un couple où tout à coup, on redécouvre comme ça des possibilités de plaisir et des niveaux de plaisir qui étaient potentiellement inexistants avant, est-ce que ça chamboule pas énormément les dynamiques du couple ? Bon, pour le coup, ça fait deux grosses questions. Ouais. La première étant donc clitoridienne et vaginale.
Ouais.
De quoi on se parle ?
Alors là, maintenant, on a quand même un consensus là-dessus en se disant, bon, il n'y a plus de distinction. En fait, tout part de la source, c'est le clitoris. Parce que, donc là, je te le montre, hein, donc tu peux le voir. Mais comme je disais, il y a des branches du clitoris et il y a les bulbes. Et en fait, les bulbes entourent le vagin. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on touche le vagin ou qu'il y a une pénétration avec le pénis, avec les mouvements, etc., ça va venir, en fait, stimuler le clitoris. Donc, les bulbes, le branche, le tronc, le gland, etc. Donc, tout vibre à l'intérieur, mais c'est le clitoris, en fait. Donc, c'est un plaisir clitoridien parce que la source est le clitoris. Même s'il y a une pénétration vaginale ou quoi que ce soit, une stimulation vaginale, en fait, le vagin est relié, entouré du clitoris, donc clitoris.
Et donc, tout l'intérêt des positions et des changements de position, c'est juste pour la personne ayant la vulve et donc le clitoris de venir chercher la stimulation plus ou moins forte au moment le plus opportun, quoi.
C'est ça. Et puis souvent, on se dit « Ah, mais moi, voilà, j'ai pas de plaisir vaginal. Quand j'ai une pénétration vaginale, j'ai pas de plaisir, etc. » Donc, si c'est le cas, il faut l'accompagner d'une stimulation externe du clitoris. Donc, de ne pas hésiter, que ce soit la partenaire ou soi-même, de venir stimuler le clitoris, d'ajouter ce stimuli en plus, qui est du coup, comme je disais, hein, comme il y a pas mal de terminaisons nerveuses, bah effectivement, ça va apporter des plaisirs. Ce qu'on peut rencontrer aussi chez les personnes qui le stimulent pour les premières fois, des fois, ça va être de la douleur aussi, parce qu'on vient réveiller cet organe, ces muscles qui n'ont pas été habitués en fait à cette sensation, à se toucher, donc ça peut être très douloureux, mais c'est une question de pratique et d'habitude et d'appropriation du clitoris. Donc après plusieurs, et pas qu'une fois, hein, mais après plusieurs pratiques, on se rend compte que ok, c'est pas qu'on le désensibilise, mais en tout cas, il n'y a plus comme après une activité physique quand on a des courbatures, c'est un peu la même chose avec le clitoris. Donc ça va être vraiment avec la pratique de le toucher et de s'approprier qu'en fait, quand je le touche comme ça, cette sensation, je vais le relier à, en fait, c'est du plaisir et plus de la douleur.
Ouais. Et ouais, non, mais ouais. Et puis en plus, ça doit être, j'imagine pas à quel point ça puisse être hyper sensible, quoi.
C'est hyper sensible. C'est pour ça qu'il y a le capuchon, des fois, pour recouvrir, ouais. Pour voilà, protéger un petit peu cette sensibilité du gland.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, c'est vrai, alors j'ai pas parlé du pénis parce que c'est pas le sujet que je voulais aborder. Et puis surtout, il y a un excellent épisode sur le pénis qui s'appelle Tout sur la bite. Et qui est chez
les couilles sur la table
de Victoire Toyon. Et qui est moi-même, j'ai appris énormément de choses. J'ai aussi appris d'ailleurs toutes les points communs qu'il peut y avoir entre les sensibilités du pénis et du clitoris, qui sont principalement sensibles à la pression, à la vibration, à la chaleur. Donc c'est très intéressant quand on sait ça. Donc je reviens à la deuxième partie de ma question précédente. C'était quand il y a cette espèce de découverte, parce que ça peut quand même, j'imagine, chambouler
une personne, voire même vraiment la chambouler en profondeur, parce que je me dis, quand à 30 ans, tu découvres que finalement, tu peux prendre ton pied, que tu n'as peut-être jamais pris ton pied de ta vie, et que tu es avec quelqu'un que tu aimes hein, profondément, la question n'est pas là, mais que tout à coup, en fait, tu te rends compte que les relations sexuelles, ça peut prendre une toute autre dimension. Est-ce que c'est pas vécu comme un tsunami sexuel dans le couple? Qu'est-ce que ça peut provoquer?
Ouais, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand je reçois des femmes qui ont 50, 60 ans et qui le découvrent aussi hein, seulement maintenant et qui se disent « mais punaise quoi !» Je suis tellement ravie que des jeunes filles puissent le découvrir et s'approprier leur sexualité. Et moi, je suis passée à côté de ça pendant toutes ces années. Donc, je sens un petit peu une frustration et une pointe de tristesse de ne pas avoir été informée là-dessus. Alors, les jeunes filles, du coup, se l'approprient, et ça, c'est génial, et via les séries, comme on en parlait, ou via voilà, la pratique. Et puis, pour les couples, évidemment, maintenant, ils sont de plus en plus aware, conscients, du coup, de ce clitoris-là, enfin, de ce clitoris. Et du coup, ils essayent vraiment de l'intégrer aussi dans leur pratique. Ce que je rencontre principalement, c'est surtout maintenant les femmes qui se disent, moi, voilà, je me touche le clitoris quand je me masturbe. J'utilise moins de pénétration vaginale parce qu'il y avait aussi toute une injonction, hein. Je ne sais pas si c'est encore très présent maintenant, mais pour se masturber en tant que femme, quand on a une vulve, c'était vraiment, fallait faire une pénétration vaginale. C'était ça en fait, la masturbation. Ouais. Et je pense, c'est mon hypothèse, que beaucoup de personnes ne se masturbaient pas parce que ça ne leur apportait pas grand-chose. Et ça se comprend du coup maintenant, puisque il faut accompagner, en fait c'est vraiment le clitoris qui va apporter aussi des sensations. Donc, pour celles qui ne ressentent rien quand c'est seulement une pénétration, comme je disais, vaginale, bah alors l'accompagner avec le clitoris. Et donc, bref, donc ces personnes-là, maintenant, le touchent et se permettent aussi de le toucher pendant les rapports intimes. Donc, soit des fois, c'est la partenaire qui va le toucher. Plus souvent, c'est ça. Et pour les personnes pour qui il n'y a pas cette... parce que souvent, il y a cette... Qu'est-ce qu'il va penser si je me touche le clitoris? Il va croire qu'il n'est pas suffisant. Pour les personnes qui n'osent pas se toucher pendant les relations sexuelles, c'est souvent par rapport à ça. Cette crainte que qu'est-ce que l'autre va penser si je me touche? Est-ce qu'il est suffisant?
C'est super intéressant. C'est super intéressant parce que il y a plusieurs choses qui se rejoignent. Donc là, on rentre dans une petite phase de réflexion en direct, comme j'aime bien. Il y a plusieurs choses qui se rejoignent, si tu veux. C'est que, pour le couple et pour le mec, il y a aussi cette injonction de devoir donner du plaisir par la pénétration, injonction qui vient de différents milieux. Et je pense principalement aussi du porno mainstream qui fait beaucoup de mal à la sexualité tout court. Mais il y a aussi le côté finalement, de relation à la sexualité. C'est-à-dire que moi, dans les échanges que je peux avoir avec des femmes, des hommes, et aussi bien sûr avec des hommes, c'est vraiment le côté, moi, des fois, le rapport sexuel, c'est parce qu'il faut que l'homme décharge, quoi, tu vois, dans tous les sens du terme, pour le coup. Et donc, finalement, est-ce que tout ça, c'est pas des carcans, juste des tas d'injonctions, alors que on devrait juste s'en foutre de comment on fait, finalement. L'important, c'est de prendre son pied, quoi.
Exactement. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est oublier le savoir-faire, parce que le faire, c'est être dans la performance, d'être dans des techniques, comment on fait, et donc cette pression immense. Et soyez dans le savoir-être. Soyez dans l'instant présent, en fait, simplement. Partagez ces expériences. Les techniques, en fait, on s'en fiche, quoi. Ayez cette connexion entre vous. Regardez-vous, sentez l'autre. Quand vous sentez l'autre, bah, vous suivez. En fait, il n'y a pas de technique. Vous suivez ce que l'autre, le corps de l'autre vous guide, ou votre corps, vos envies. Et c'est vraiment être dans l'être. Je suis là maintenant avec toi. Je profite de ce moment de qualité. Et je fais confiance à la vie, quoi.
Mais c'est ça. C'est ça. Et... pour le coup, continuons de creuser encore un peu. On parle beaucoup maintenant de... Donc là, tu vois, on a un petit peu effleuré le sujet. On parle de sexe pénétratif, qui est clairement extrêmement représenté, encore une fois aussi, dans l'éducation à l'école. Tout simplement parce qu'à l'éducation à l'école, pour des raisons X ou Y, bon, déjà, un, on n'enseigne pas le clitoris, ce qui est problématique. Et deux, on parle que du sexe procréatif.
Exactement, procréatif.
Il y a quand même une grosse partie du sexe dans notre vie qui est récréatif.
Oui.
Voire la très grande majeure partie.
Exactement, oui. On passe plus notre temps à du sexe récréatif qu'à du sexe reproductif. Donc,
Ouais.
c'est très important de parler évidemment de contraception, pareil, contraception,
Oui.
de l'aborder aux deux membres du couple. Hein, on ne fait pas un enfant toute seule. Donc, c'est très important que les hommes soient impliqués, soient responsables. En fait, chaque personne doit être responsable de sa fertilité. Donc, c'est important de parler de ça. C'est important de parler aussi, évidemment, de se protéger, hein, des maladies sexuellement transmissibles. Et c'est aussi important de parler de plaisir, d'éduquer là-dessus aussi et de voir, voilà, le champ des possibles, en fait. Et donc, pas que pénétration, phallocentré, quoi. J'ai oublié mes mots, mais pénocentré.
Pénétrocentré, ça existe? Je sais pas
Voilà,
si ça existe.
oui. Voilà, phallocentré.
Et si tu veux, non mais c'est super intéressant parce que justement, et tu parles de contraception, la charge contraceptive, messieurs, ne doit plus être, et mesdames, hein, ne doit plus être qu'une affaire de femme. Voilà, c'est
Surtout
quelque
quand on
chose.
sait que pour les femmes, voilà, nous sommes fertiles que quelques jours dans le mois, et les
Et
femmes,
oui.
oups, mais c'est tous les jours pendant des années, des
C'est ça.
décennies. Donc voilà, au bout d'un moment, qui doit prendre la charge? Voilà. Donc quand on est dans un couple hétérosexuel, voilà, la charge, elle doit être la responsabilité des deux, et donc de pouvoir voir, voilà, entre les deux, quel est le meilleur système qui fonctionne pour tous les deux.
Et on en parle aussi, pour le coup, de cette sexualité non pénétrative. Donc, il y a quand même beaucoup de pratiques. Est-ce que tu peux nous en balayer quelques-unes pour faire découvrir aux gens qui ne connaîtraient pas une sexualité autre que pénétrative?
Ouais. Bah déjà, ce qui est marrant, hein, quand je parle de ça, donc je dis à mes clients, je dis voilà, et le sexe non pénétratif, blablabla, blablabla, et là, ils sont là, non pénétratif, comment ça, c'est possible, c'est quoi? Donc, effectivement, ça peut, voilà, chambouler un petit peu parce qu'on a cette idée, voilà, un rapport sexuel, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation. Voilà, pour les hétérosexuels. Et homosexuels aussi, du coup. Les possibilités, du coup, bah, elles sont immenses, en fait. J'aime bien dire que c'est, en fait, laisser votre imaginaire. Donc, ça peut être tous les rapports sexuels oraux. Donc, c'est-à-dire, ça peut être la fellation, les cunnilingus. Ça va tout ce qui est même embrasser tout le corps, en fait, de l'autre. Ça, c'est déjà un rapport sexuel. Des câlins, c'est des rapports sexuels. Des bisous. Des bisous avec la langue. Il y a des milliers de façons de faire des bisous. Donc ça peut être juste un rapport sexuel, ça peut être s'entraîner à faire des bisous différents avec la langue et les pressions, etc. Ça peut être voilà les massages, ça peut être s'amuser, faire une masturbation mutuelle, donc c'est-à-dire que les deux se masturbent avec les mains, avec la langue, ça peut être avec des jouets, etc. Donc, il y a une infinité, en fait, de choses possibles. Ça peut être prendre un bain ensemble et être enlacé, se caresser, se toucher le corps. En fait, pour moi, c'est tout ce qui touche à l'érotisme, en fait. Et ça, c'est voilà, c'est sexuel, quoi. Ça vient réveiller l'énergie sexuelle. Et donc, dès que ça vient réveiller l'énergie sexuelle, c'est sexuel. Un massage des seins, ça peut être juste embrasser les seins. Et tout ça procure des orgasmes et des sensations de plaisir.
Pour le coup, petite parenthèse qui me vient en t'écoutant parler, tu parles des seins. Bon, comme tu le sais, moi je suis un fervent promoteur de l'allaitement maternel. Est-ce que l'allaitement provoque des réactions, des changements de réaction vis-à-vis de la perception de la poitrine chez les femmes comme chez les hommes?
Oui, bah encore hier, j'en parlais avec un couple et par exemple pour l'homme, ça peut être difficile hein, pour certains hommes. Voilà, c'est toute une question de représentation, donc ça dépend des représentations, l'éducation, des croyances. Donc chaque personne est différente. Mais pour cette personne-là, ce monsieur, bah voilà, il disait avant, voilà, les seins de ma femme m'excitaient beaucoup et puis maintenant qu'elle nourrit mon fils avec, bah en fait c'est un sein nourricier, donc je suis plus du tout excitée. Donc voilà, il se faisait cette représentation-là. Pour certains autres hommes, ils sont là, bah non, ça n'a rien changé. Voilà, oui, ok, elle allaite, mais voilà, je trouve ça tout aussi sexy, etc. Donc, ça va vraiment dépendre de son rapport à son corps, à ses croyances, qu'est-ce qu'on sexualise, qu'est-ce qu'on désexualise. Et ça va surtout être ça la question. Et puis, par rapport au sein aussi, et c'est la même chose aussi hein, pour les femmes qui allaitent. Pour certaines, ça ne change rien du tout. Elles arrivent à sexualiser ce sein et à le différencier du sein nourricier. Et pour d'autres, ça va être vraiment, bah, voilà, c'est le sein, je donne le sein, je nourris. Et puis voilà, j'ai déjà mon enfant sur le sein tout le temps, toute la journée. Je n'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit sur mon sein, ça aussi.
Ouais, c'est sûr. Ça peut se comprendre.
Ouais. Et puis, par rapport au sein aussi, il peut y avoir aussi, pendant les phases orgasmiques, de l'éjection de lait et l'émission de lait donc, qui sort du sein. Et ça, c'est produit par l'hormone l'ocytocine, qui est voilà, l'hormone de l'amour et qui, quand elle est sécrétée, peut venir faire une éjaculation, éjecter du lait du sein. Et aussi des contractions utérines, mais voilà, ça, c'est plutôt par rapport à ça, on peut être du coup surpris qu'il y ait du lait qui sort du sein.
C'est bon à savoir, donc c'est normal.
Oui, donc voilà, il y a des personnes qui l'expérimentent pendant la grossesse, mais aussi en postpartum, et donc c'est normal, c'est une réaction, c'est que vous avez beaucoup de plaisir, quoi.
Moi, j'aime bien le côté quand même aussi, le fait que ça rappelle justement que le sein n'est pas que un objet de plaisir et qu'il appartient à la personne à qui il appartient, de savoir s'il est sexualisé ou pas et ce qu'on va en faire ou pas. Mm-hmm. C'est un petit message que je veux passer aussi. Ce n'est pas aux hommes de sexualiser le corps des femmes, c'est aux femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire avec. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Ce n'est pas aux femmes de sexualiser un pack de 6 d'abdos de mec, c'est au mec de savoir ce qu'il veut faire avec ou pas. Mm-hmm. Encore faut-il l'avoir. Mais...
ça, c'est autre chose.
une autre question qui m'interpelle... Si par rapport aux discussions que j'ai pu avoir. Bon, on se parle de masturbation, encore une fois, tu l'as bien précisé au départ, la masturbation c'est chouette, mais c'est pas non plus une obligation, faut pas que ça devienne une injonction à se masturber. Et pour autant, j'ai l'impression qu'il y a un tabou dans un couple, quand à un moment, il y a une grosse énergie sexuelle d'un côté, homme comme femme, hein, la question est même pas là, ou là je parle de manière hétéronormée, mais ça marche aussi dans les autres configurations. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle d'un côté, Et bien à un moment, faut que ça relâche, mais l'autre, c'est pas son moment. Mmh. Souvent, j'entends de la culpabilité de la part de l'autre ou de la culpabilisation venant de la personne qui déborde un peu, alors que finalement, est-ce que finalement, on s'en fout pas ? Le plaisir est aussi propre à chacun, tu vois ? Comment ça se passe ? Oui. T'as des retours comme ça dans tes consultes ?
Oui, encore ce matin, en fait, j'avais ce retour-là d'une personne en postpartum, qui avait accouché il y a à peu près 20 mois. Et du coup, voilà, difficulté à revenir dans des rapports intimes avec le partenaire. Et le partenaire, qui lui disait, il ne pressait pas, etc. Donc, il disait, moi, du coup, je m'occupe de moi, ce qui est très chouette. Et donc, je me masturbe. Mais donc, c'était plutôt par rapport à elle où elle se disait, je sais que c'est bien, je sais que c'est bien qu'il fasse ça, mais je suis un peu jalouse de ne pas savoir, d'avoir envie de le combler et en même temps de se dire, je ne le comble pas assez. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent ça aussi. Alors qu'on pourrait se dire, mais chouette, cette personne-là est responsable. Elle a envie de se faire du bien, elle sait comment se faire du bien, indépendamment de l'autre. Et donc, ça doit être quelque chose qui doit être considéré comme normal et comme une chouette expérience. Mais c'est vrai encore, ça dépend des perceptions. Des fois, on peut le voir comme une rivalité. Voilà, je ne suis pas suffisante.
Ouais.
Elle a besoin de se masturber parce que elle pense peut-être à quelqu'un d'autre quand elle se masturbe. Enfin, c'est vraiment toutes ces questions-là, ces croyances, en fait, qu'on a autour de la masturbation qui peuvent venir, entacher cette expérience-là. Et donc là, ça serait vraiment faire un travail avec cette personne pour vraiment dire, OK, quelle est ta relation avec ça ? Quelle est ta croyance ? Quelles sont tes croyances par rapport à ça ? Et c'est pas le problème ne vient pas de la personne qui se masturbe, parce que cette personne-là, tout va bien, elle s'occupe de son plaisir, mais plutôt toi, comment tu te sens par rapport à ça et comment on peut travailler pour que tu te sentes mieux, pour que ça passe mieux ?
Et oui, c'est ça. J'ai l'impression que dans tout ce qu'on se dit là depuis le début, il y a quand même un élément hyper important, c'est la communication, non ?
Ah oui, 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 vraiment communiquer, ça c'est... Alors, il y a communiquer, on communique. J'ai des fois certains couples qui me disent « Ah oui, on communique beaucoup, on parle énormément, etc. » Je dis « Oui, d'accord. » Mais parler de la pluie et du beau temps, OK, c'est une communication. Mais est-ce que vous arrivez à partager un niveau plus profond ? Est-ce que vous arrivez à être vulnérable avec l'autre, à exprimer vos peurs avec l'autre ? Est-ce que vous arrivez à exprimer vos désirs avec l'autre ? Et déjà, là, on peut voir à quel niveau est la communication. Et donc, pour les couples où cette communication, elle est profonde, c'est-à-dire qu'ils ont créé un espace assez safe, assez sécurisant pour se permettre d'être vulnérable sans se dire « elle va me juger » ou « il va se moquer de moi ». Non, il n'y a rien de tout ça, en fait, dans les espaces bienveillants et sécurisants. C'est « je t'écoute, tu t'exprimes, je t'écoute ». et trouvons ensemble une solution pour que tu ailles mieux, ou trouvons ensemble, ok, tu as ce désir, bah, c'est vrai que ouais, j'y avais pensé aussi, bah, ça me plairait, ok, quand est-ce qu'on le met en place, comment on le met en place, et voilà, et là on communique sur des aspects vraiment, à un niveau vraiment intime.
Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis plusieurs temps, plusieurs semaines. Si tu veux, en parentalité, en développement de l'enfant, on parle beaucoup de l'attachement, et de l'attachement sécure. Bon, c'est une notion qui n'est pas forcément étudiée en sexologie, je pense, mais si tu veux, c'est vraiment le côté où, une fois qu'on a un attachement sécure, on est libre, en fait, on se sent libre d'explorer, de faire ce qu'on veut. Et... force est de constater, en tout cas à mon point de vue, que quand on construit une relation amoureuse avec quelqu'un, avec un engagement, ou quand on choisit de s'engager comme ça avec quelqu'un, on construit un lien d'attachement. Et après avoir lu ton mémoire, après t'avoir écouté, après avoir lu d'autres choses aussi, je me rends compte qu'en fait, quand tu parles de relations safe, et en fait, on retrouve les mêmes clés de l'attachement sécure, et qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire... voilà, je pose les jalons pour que, quoi qu'il arrive, je sais que je ne vais pas être jugée, on va m'accepter tel que je suis.
Et ça vient effectivement... Hein, en fait, nos relations viennent nous travailler sur des éléments insécures de notre passé. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce travail aussi de développement personnel, d'être accompagné, de savoir un peu, de se replonger là-dessus. Bah oui, quel était mon style d'attachement avec mes parents, par exemple, et de pouvoir travailler ça, parce qu'on peut avoir un style d'attachement insécure avec les parents, et donc les premières expériences relationnelles peuvent être du coup insécures, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent l'être tout le temps. On peut le conscientiser et on peut travailler ça, et donc justement recréer de la sécurité déjà pour soi. Et ensuite, une fois qu'on arrive à faire ça, bah, vraiment, on peut avoir une relation intime, sécure. Mais il va falloir faire tout ce travail-là, effectivement.
C'est super intéressant le lien qui est fait là, je trouve.
Et je le vois très bien, je le vois très vite en fait avec les couples, quel style d'attachement dans lequel ils sont. Alors quand ils sont sécures, bah, du coup chouette, on peut travailler, etc. Et ça va plutôt bien et plutôt avec des résultats satisfaisants. Quand il y a déjà des attachements vraiment insécures, beaucoup d'insécurité, de jalousie, de croyances comme quoi par exemple les hommes sont mauvais ou vont me faire du mal, etc. Ou les femmes sont toutes les mêmes. Là, ok, il va falloir vraiment prendre le temps de revoir, refaire les bases un petit peu. Pas dans le sens que ce soit mauvais, mais en tout cas, c'est pas sain pour... déjà parce que les gens souffrent, en fait, hein, d'être dans cet état-là. Donc, c'est pouvoir les accompagner et retravailler tout ça. Et donc, ça, généralement, ça prend beaucoup plus de temps.
On va arriver bientôt au bout de cet épisode, Camille. On a quand même balayé beaucoup de sujets. Moi, je suis ravi. De cet échange et je pense que ça va amener des billes, mais aussi peut-être soulever des questions. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez que nous allons organiser un question-réponse avec Camille. Je poserai sur le réseau social Instagram un petit sticker pour récupérer vos questions à Papatriarca, et nous referons un épisode avec Camille pour répondre à un panel de questions choisies. S'il y en a beaucoup, nous ferons le tri. Et voilà, parce que je pense que là, ça va peut-être soulever pas mal de questions et que ça peut être intéressant de les poser en direct.
Bah ouais, parce que là, on a élargi, on a débroussaillé, on va dire, on a fait la base de ce que j'aime enseigner et partager dans les consultations sexologiques. Et après, évidemment, il faut toujours des questions plus précises, plus spécifiques, où là, on peut vraiment accompagner, sachant que voilà, après, ça dépend de chaque expérience c'est vraiment pour des réponses personnalisées, il faut vraiment aussi connaître l'histoire de la personne. Donc, ça va être intéressant. Ouais. J'ai hâte de savoir un petit peu les questions plus spécifiques des personnes.
Bon, vous savez ce qu'il reste à faire. À bientôt pour les questions. Merci beaucoup, Camille.
Merci beaucoup, Cédric. Merci.
À très vite.
À très vite. Salut.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarcat Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.